Marceau le midi.
On est gâtés niveau température, les amis. Profitons-en pendant que ça passe. Je salue mes amis motocyclistes que j'ai croisés ce matin. Des fois, je vous envie. Des fois, je vous envie.
Mais qu'est-ce qui t'empêche de
changement
travailler
d'huile.
En moto? Ah.
Encore fait mon changement d'huile.
Qu'est-ce qui t'empêche, changement d'huile?
Changement d'huile. C'est 26 degrés. Faut que j'aille la porter le matin.
OK.
Ma moto. Là, par exemple, j'allais la chercher l'après-midi, mais moi, je finis de travailler tard le soir. Les magasins sont fermés. Fait que là, il faut que je m'organise avec le propriétaire. Moto Vanier! Je vais l'appeler, là, d'ailleurs. Hey, c'est 26 degrés sur Québec avec le facteur humidex. On est autour de quoi? 31 avec le facteur humidex, Pascal? C'est très bon.
Ça. Ouais, mais l'humidité.
Ouais, mais l'humidité.
Non, ouais, mais regarde. L'humidité, là.
Non, chut, tu vas fermer
mais
ton micro.
C'est-tu la seule chose, là? C'est quoi cette pollution-là? C'est à cause des feux?
Ben peut-être.
L'indice là, d'air là, est pas beau là, à Québec aujourd'hui. Là.
Non, OK.
Non.
C'est,
ouais, sachez-le.
Peut-être. S'il pleut en fin de semaine, ça va être à cause que Pascal a pris sa voiture. Ce soir, cette nuit, ciel dégagé, minimum de 18. Pour ce qui est de demain, jeudi, des averses tard en matinée. Peut-être des risques d'orage demain après-midi avec un maximum de 24 degrés. Vendredi, ce sera des nuages avec un maximum de 25. En direct de la Louisiane, notre chum Louis Gauthier, chroniqueur international. Salut!
Hey, bonjour Québec. T'es-tu nous, dans... il fait 31 ici au Mercure.
Wow.
Bon, ben nous autres, avec le facteur humidex, il fait plus chaud que chez vous en Louisiane. T'es-tu dans le quartier français, là, avec un petit bourbon?
Non. Je suis un petit peu à l'extérieur, là. C'est comme je suis à Bâton Rouge, serait Québec, je suis à Portneuf.
OK. Ah, ouais, je comprends. Est-ce qu'en Louisiane, le quartier français, c'est très safe, là, mais il y a certains quartiers en Louisiane qui sont pas recommandés pour des petits blancs-becs. Quand tu es camionneur, connaissez-vous tous les quartiers qui sont chauds où vous ne devez pas vous stationner? Y a-t-il l'information qui se rend à vous?
Lorsque tu es camionneur, tu ne te poses pas ces questions-là parce que le danger peut être omniprésent.
OK.
Donc, commence pas à stresser avec ça parce que tu n'iras pas livrer dans le Bronx à New York. Tu n'irais pas livrer dans les quartiers malfamés de Los Angeles où se retrouvent à peu près tous les entrepôts réfrigérés. Je pourrais te nommer plein d'endroits comme ça. Mais les gens sont quand même... les endroits où on va, tu vas de jour, donc tu livres de jour, tôt le matin. Il n'y a pas vraiment de problème. Tu dois vérifier les endroits où tu te couches ce soir, donc dans des relais routiers pour se conformer à la loi 96 et non des truck stops. Donc, tu te stationnes là le soir pour dormir, faire ton reset de 36 heures lorsque tu as atteint ton cycle de conduite hebdomadaire. Alors, tu connais ta sécurité lorsque tu es un transporteur, un camionneur transfrontalier, là, tu fais attention.
OK. C'est mes chums de Truck Stop Québec. Il y en a un qui me racontait qu'il avait tombé en panne. Je pense que c'était son troisième ou son quatrième voyage à New York, dans le Bronx, 3 heures du matin. Il était content qu'il fasse noir parce que quand il fait noir, il n'y a pas de lumière à l'intérieur du camion, ce qui fait en sorte que les gens qui regardent à l'intérieur du camion ne connaissent pas nécessairement la couleur de peau de l'individu qui est en dedans. Mais il disait que c'était les 8-9 heures les plus stressantes de toute sa vie, là. Ah non, il y a des quartiers.
Oui.
Des quartiers
arrive, mais il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Là.
Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais en
Louisiane? C'est sûr que moi, j'ai pas une ancienne vie qui est portée à avoir peur non plus. Là.
Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais en Louisiane, mon ami?
Ah, ben là, je peux pas te le dire.
Non, c'est un secret.
Non, on est venu régler des petites choses, puis ça va bien. Là. Dans le transport, il arrive des petites erreurs des fois, puis on corrige. Puis on appelle ça faire du service à la clientèle.
C'est ce qu'ils disent. Donc, continue ton bon travail. Oui. Aujourd'hui, on parle des conflits armés. Puis la plupart des conflits armés qu'on voit sur les autres continents, on va se le dire, là, il y en a que ça fait des millénaires que ces pays-là sont en guerre. T'sais. On dirait que ça finit plus. Pour nous autres, c'est tout nouveau parce que là, bon, on sait qu'est-ce qui s'est passé entre les Anglais et les Français, c'est plaine d'Abraham. Là. Puis on a l'impression que c'est la plus vieille guerre qui a existé. Mais ailleurs, les conflits, c'est des centaines et des centaines d'années.
Là. Oui, puis écoute, tout ce qui se produit depuis 100 ans, ça a tous un dénominateur commun, c'est-à-dire le néo-féodalisme. Ça remonte, je te dirais, au Moyen Âge, alors qu'il y avait des conquêtes des Anglais et des Français, et qui ont pris, exemple, la France a pris beaucoup l'Afrique, l'Angleterre a pris beaucoup les pays du Maghreb. Et ça nous amène en 1928 avec la création d'Assam El-Banna, qui a formé les Frères musulmans. Les Frères musulmans avaient deux choses en tête, c'était d'éradiquer la colonie anglaise qui était omniprésente en Égypte, mais également éradiquer les Israéliens, les Juifs. Et ça demeure leur prémisse de base des éliminer. Et qu'est-ce qu'on remarque? Pourquoi que cette philosophie-là? Parce que leur idéologie, eux, c'était une organisation complète qui englobe tous les aspects de la vie. Qui a pris ça au pied de la lettre quelques années plus tard? Un certain Adolf Hitler, lorsqu'il a construit et qui a mis sur place son Troisième Reich. Et en 1933, son parti prend le pouvoir, on sait ce qui est arrivé, déclenche la Deuxième Guerre mondiale, et qu'est-ce qu'il a de commun avec les frères musulmans? Éradiquer les Juifs. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe à la bande de Gaza, le financement qui est arrivé lorsque ça a pris, ça va faire déjà 2 ans au mois d'octobre. Donc, il y a 2 ans au mois d'octobre, lorsqu'il y a eu l'attaque en territoire israélien, depuis ce temps-là, ça dure. Qui est allé financer ça? Bien, ce sont les frères musulmans. Les frères musulmans ont une branche qui est un peu plus modérée, qui se trouve être l'Association musulmane britannique située à Londres, qui sert de porte-parole, mais les frères musulmans sont quand même catalogués comme étant une organisation extrêmement terroriste. C'est eux qui ont financé Al-Qaïda au début, c'est eux qui ont financé le retour des différentes tribus en Afghanistan au retrait des troupes militaires après la fin du conflit en Afghanistan. Puis lorsqu'on remonte dans l'histoire, il y a 5 personnes qui sont à la tête ou qui ont financé, qui ont parti les frères musulmans. C'est, je vous ai parlé d'Hassan al-Banna, mais il y a eu son fils et son petit-fils, ses 2 petits-fils qui ont pris la relève, dont le fils qui a fréquenté Princeton, l'université dans le New Jersey, et les 2 petits-fils ont fréquenté Harvard. Donc, ils sont venus implanter cette idéologie-là en place. Et on regarde aujourd'hui que la base du néo-fédéralisme est encore très présente parce qu'on regarde de quelle façon la communauté économique européenne est composée. On essaie d'avoir une organisation globale qui englobe tous les aspects de la vie. On regarde ce qui se fait au niveau de la mondialisation. Cette philosophie-là a toujours perduré dans l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans des conflits comme la Russie et l'Ukraine? C'est que tout le monde tient à son leitmotiv, c'est-à-dire on va prendre tous les moyens pour conserver notre pouvoir puis éradiquer le pouvoir de l'autre. C'est pour ça qu'une guerre entre les Russes et les Ukrainiens, ça dure énormément. C'est pour ça que les Ukrainiens, tout d'un coup, se retrouvent avec des drones ultra performants. C'est sûr que ça vient pas d'eux. Ça vient de la communauté de l'Ouest, de la communauté européenne, qui ne veut absolument pas que la dictature russe reprennent du poil de la bête pour couvrir ce qui était une URSS d'antan, qui était basée justement sur cette idéologie-là d'avoir un service complet au service de la population, mais sur lequel tu as le contrôle. On ne veut pas ça, mais on l'applique d'une manière ou d'une autre, de la façon dont on est en train de réorganiser l'état de la gouvernance mondiale. C'est pour ça qu'on voit un Donald Trump aux États-Unis être très conservateur de son territoire, en voulant dire « si vous voulez venir faire affaire chez nous, ben, ça va vous coûter tant et en surtarifs. » Puis lorsqu'on voit les surtarifs, la façon dont ça s'applique, ça fait moins mal à nous autres présentement. C'est sûr que l'aluminium, ça va nous faire mal. Mais tu sais, je me suis promené dans le Tennessee, en Georgie, dans l'Alabama, dans le Mississippi, la Louisiane. J'ai parlé à tous ces Américains-là et eux, ils la trouvent pas drôle, l'histoire des tarifs.
Non, mais Trump is a taco. Il va encore sortir de ça.
Il va changer d'idée, ça. On le sait, là. Il va changer d'idée, c'est juste pour gagner quelque chose.
Trump mais on... always chicken out.
Mais c'est pour ça, Yannick et Pascal, qu'on voit un Donald Trump qui est pratiquement isolé, puis qu'on voit à peu près tous les pays, dont le Canada, qui continue de faire affaire avec la Chine ou qui va renforcer sa position également avec l'Europe. Donc, on se retrouve justement dans cette association-là avec des dirigeants et membres de la population qui sont quand même privilégiés de participer à la prise de pouvoir, qui vont rejoindre ce néo-fédéralisme qu'on va chercher les racines dans le Moyen Âge, pour amener un peu ce contrôle-là, pour contrôler. Puis on contrôle même le message public.
Ouais, tantôt, on en parlait. Puis on parlait des tarifs sur l'acier et l'aluminium, puis on voyait que nous, au Canada, on commence à travailler interprovince aussi. Est-ce que c'est parce qu'on a envie de faire affaire avec la Chine? On a-tu envie? Non, pas nécessairement. On est en train d'essayer de se sauver économiquement parlant, puis de prendre les rênes un peu de notre économie. Mais ça va déplaire à Donald Trump, au bout du compte, si on s'en fait des alliances ailleurs et si on les tient, et peut-être qu'il va passer à l'action. Il y a plein de gens qui vont dire « on n'est pas sûr pour les tarifs sur l'aluminium et l'acier », mais ça pourrait faire en sorte qu'il souhaite mettre une pression sur le Canada de voir qu'on s'en va à l'extérieur puis qu'on continue des alliances économiques. Alors, moi, c'est une hypothèse que je mets dans mon petit panier.
Mais il va reculer. Il va encore reculer.
Écoutez, les amis, moi, ce que je pense, c'est que Donald Trump est en train de donner une méchante leçon d'affaires à l'ensemble de la planète. Le Canada s'est fié trop souvent aux États-Unis, au niveau de sa sécurité, au niveau de son économie. On a dit, on a un voisin, on est des amis, on va se partager la tondeuse quand c'est le temps de faire notre gazon. C'est de même que le Canada a toujours réagi avec les Américains. Malheureusement, la faiblesse de notre dollar nous a donné un certain avantage commercial vis-à-vis les États-Unis. Ce que Donald Trump est en train de faire, c'est qu'il nous donne une méchante leçon d'affaires en disant, diversifiez vos marchés parce que nous autres, là, ça va coûter cher faire affaire chez nous, puis ça va créer. C'est un passage obligé, selon moi, qu'on est en train de faire. On va vivre une récession. L'histoire de Mark Carney qui avait mis pour... qui pensait avoir 220 milliards $ de revenus, il y en a eu à peu près 600 millions, puis qui disait qu'il prenait cet argent-là de surtarifs pour refinancer ou redorer un peu l'image canadienne au niveau de ses services et tout. Bien là, il est allé mettre la croix là-dessus pour dire, regarde, moi, je viens d'annuler ça. Maintenant, c'est de se poser la question, comment tu vas le financer, ton programme électoral, maintenant que tu pensais avoir l'argent que tu as pu, tu es allé chercher juste 600 millions. Donc, Donald Trump, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait hier, ce qu'il a annoncé, c'est encore un petit coup de bâton en disant, hey, réveillez-vous, là, puis commencez à vous mondialiser au niveau de vos services, allez vendre vos affaires. Ouais. Puis on dirait qu'il y en a un qui n'a pas allumé hier concernant ce que Pascal disait, qu'on est en train de rouvrir nos frontières à travers le Canada. Il y a un certain François Legault qui a de l'air à dormir sur la switch parce que lui ne comprend pas trop ce qui est en train de se passer, on dirait.
Il s'en va en Europe, il s'en va avec des hommes et des femmes d'affaires pour justement tenter de négocier avec...
Je vous mets un vin sur la table. En Europe. Ouais. Je vous mets un vin sur la table, là, présentement, pour savoir, vous me direz combien de projets il revient avec des ententes signées concrètes qui vont apporter de la business aux Québécoises et aux Québécois.
On le saura pas, Louis. On le saura pas. T'es donc bien de mauvaise foi.
Je suis pas de mauvaise foi. Je suis précurseur de la nouvelle.
T'es donc bien moté.
T'es donc bien de mauvaise foi.
Ça sortait mal.
C'est sûr qu'on le saura pas, Louis.
J'ai figé. Je me...
T'es
une mauvaise foi, là, puis, comme dirait Yann.
Juste pour en revenir, pour boucler la boucle, là, les guerres qui datent de 100 ans, 200 ans, 300 ans, des fois, c'est plus vieux que ça. T'as-tu l'impression que dans 200 ans, 300 ans, il va y avoir encore une guerre entre les musulmans et les juifs?
Oui, ça va durer. C'est 1000 ans facile, ce conflit-là. À un moment donné, est-ce qu'il va passer une génération qui va dire hey, « là, ça va arrêter ». Moi, je pensais que ça allait se régler avec les kibbutz dans les années 70, parce que les kibbutz, c'est quand même un métissage entre des gens de la bande de Gaza et des Israéliens. On se disait, bon, on est-tu en train de voir quelque chose? Les temps nouveaux là, de cette génération-là, ben non, ça n'a pas été le cas. On est arrivé avec l'assassinat d'Anwar el-Sadat en 1979, qui était commandité par qui? Par les frères musulmans. Puis c'est un Égyptien qui a été assassiné par des musulmans. Alors, c'est pour montrer l'emprise qu'il y a, qu'elle sera toujours présente. Donc, ça va être très, très dur à se défaire de ça. Puis, les gens qui sont en conflit, c'était la même chose qui est arrivée en Syrie. On a tassé un musulman par un terroriste qui était en cravate, qui s'est fait raser la barbe, puis qui a serré la main à Emmanuel Macron, puis qui est rendu comme le sauveur. Pourtant, ce gars-là a gagné ses élections avec le financement de la fraternité des frères musulmans. Tu sais, on fait le tour. Je connais bien le secteur, ce secteur-là, pour y avoir travaillé pendant de nombreuses années, une certaine époque. Je suis pas surpris de voir de quelle façon ça circule, puis je vois pas la lumière au bout du tunnel de façon dont ça va se régler, parce que juste à voir ce qui se passe entre les Russes et les Ukrainiens, juste à voir de la façon dont le Hamas ne participe même pas au compte-gouttes à la trêve de cessez-le-feu que les Américains ont proposé, en échangeant les prisonniers et tout ça, on essaie de tellement, puis on ne peut pas en reprocher aux Juifs de s'assurer d'une sécurité éternelle en voulant dire, hey, nous autres, on va raser ça, puis on va en faire une station balnéaire à la bande de Gaza. On ne veut plus y voir là, là, parce que c'est un problème.
Ouais, mais c'est un problème à partir du moment où il y a des innocents qui sont tués, des enfants, des femmes, des gars.
Malheureusement, dans n'importe quel conflit, n'importe quelle situation économique ou guerrière, il y aura des dommages collatéraux et la population, malheureusement, fait toujours les frais.
Louis Gaudier, si tu as du temps, là, va, t'es en Louisiane présentement, va faire un tour à Bourbon Street. Là. Va t'acheter des petits colliers.
Oui, bien là, ce que je veux faire, c'est de me rendre à Québec parce que je vous ai dit que je vous ai invité au restaurant, donc la saison va finir bientôt.
Ouais.
Puis ça va être une occasion pour Pascal de vivre son fantasme. Elle aura une date avec un gars de 60 ans.
Ouais. Exact. C'est à peu près quoi? C'est encore 32, 33 heures se rendre en Louisiane? Je sens que c'est ça que ça m'avait pris en moto la dernière fois.
Oui, c'est ça, mais regarde, pour te donner une idée, là, dans mon cycle de 70 heures, il me reste à peu près 23 heures de conduite, puis je suis parti depuis dimanche matin très tôt.
OK.
Samedi matin très tôt, pardon.
Quand même. Hein.
Lâche pas, mon ami.
Lâche pas.
Hey, bonne fin de journée, les amis.
Bye-bye, Louis Gaudier, chroniqueur international. Nous autres, on s'arrête, on s'en va en musique avec Jean Leloup, Paradise City. Si vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021.